Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
En 2024, des fouilles préventives menées par l'INRAP à Grenoble mettent au jour une trentaine de squelettes humains qui n'ont visiblement pas eu les honneurs de funérailles en bonne et due forme. Ces squelettes se trouvent à proximité des fondations d'un édifice suscitant tout de suite la curiosité des chercheurs qui émettent quantité d'hypothèses. La réponse finit par surgir des archives judiciaires et d'un plan dessiné au milieu du XVIe siècle, celui d'un gibet qui servait à exhiber les cadavres des personnes condamnées à mort. Que nous apprend cette découverte sur l'importance du pouvoir judiciaire à Grenoble, alors même que serait dit le pouvoir royal vis-à-vis des protestants avant les guerres de religion, et que nous dit-elle sur les avancées d'une archéologie plutôt récente, l'archéologie de la justice. C'est ce que nous allons voir avec l'un des principaux artisans de la découverte de ce gibet, Nicolas Mainvielle-Larousse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, archéologue, chargé de recherche CNRS. Vous êtes responsable scientifique du chantier de fouilles conduit par l'INRAP à Grenoble. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci de venir nous parler de cette découverte du gibet, une découverte qui témoigne d'une archéologie, donc je le disais, de plus en plus en vogue, l'archéologie de la justice. On va bien sûr parler de la fonction de ce gibet à cette époque, du contexte historique dans lequel il nous replace et des informations qu'il nous livre sur l'autorité royale et judiciaire avant les guerres de religion. Mais pour démarrer, j'aimerais qu'on remonte à la source de cette découverte. Quel est le point de départ des fouilles qui ont été conduites à Grenoble et à quel emplacement elles ont été réalisées?
Alors le point de départ, c'est un réaménagement de l'esplanade qui est conduit par la ville de Grenoble. L'esplanade, c'est un grand espace qui se situe à l'entrée nord de la ville, un espace qui était dédié aux promenades, qui était dédié à des fêtes foraines, un parking aussi, et la commune en fait notamment un grand parc. Donc un diagnostic a d'abord été prescrit par l'État pour explorer cet espace qui n'avait jamais été fouillé, qui n'était pas connu, histoire de façon à savoir ce qu'il pouvait y avoir, si des vestiges des occupations étaient référencés. Donc un diagnostic en 2023 qui a été mené par un de mes collègues, Fabien Isnard, et un diagnostic qui a été positif, si bien qu'il a généré la prescription d'une fouille en 2024.
Quand on parle d'un diagnostic positif, quels sont les premiers éléments qui surgissent à ce moment-là en 2023 ?
Alors ce sont des traces d'occupation qui remontent en général à l'époque moderne sur l'esplanade, donc c'est, on en parlera sans doute plus tard, les diverses tentatives des pouvoirs urbains pour gagner cet espace sur la rivière, mais c'est aussi et surtout un édifice qui apparaît en limite d'emprise, un édifice quadrangulaire avec à l'intérieur quelques inhumations, dont une a été notamment fouillée lors du diagnostic, et une inhumation qui a été datée du XVIe siècle.
Quelles sont du coup les fouilles qui sont réalisées? Comment élargit-on ce diagnostic-là? À partir de ce moment-là, quelles vont être les autres choses qui vont affleurer sur ce site de l'esplanade?
Alors devant cette découverte, donc les services de l'État, le service régional de l'archéologie a prescrit une fouille donc qui était centrée sur ce secteur-là de l'esplanade, de façon assez large pour qu'on puisse le comprendre, avec l'objectif de le fouiller en totalité, de fouiller bien sûr l'ensemble des inhumations qu'il y avait à l'intérieur et de replacer tout ça dans son contexte. Donc la fouille a démarré en 2024, elle a duré 2 mois et on a pu effectivement fouiller l'ensemble. Et on a été mis devant des choses qui n'étaient pas totalement prévues, avec beaucoup plus d'inhumations que prévues. Tout au cours de la fouille, l'une des questions était de savoir ce qu'était justement cet édifice.
Alors, vous parlez de plus d'inhumations que prévues. À quel nombre s'élèvent ces squelettes qui sont découverts sur ce site?
Alors, au minimum, on a identifié 32 individus. Donc, c'est un minimum parce que les individus n'étaient pas tous entiers dans les fosses. Donc, il y a un dénombrement qui est fait. Et c'est un minimum aussi parce que l'ensemble de l'édifice n'a pas été totalement fouillé. Donc, une partie est en dehors de l'emprise.
Quel constat vous réalisez en observant, et les anthropologues réalisent en observant ces squelettes qui vous font vous dire on n'est pas sur un cimetière particulièrement, enfin en tout cas tout à fait classique?
Alors il y a eu 2 étapes dans cette constatation. La première c'était lors de la fouille bien sûr. On s'attendait à avoir 3, 4, 5 inhumations et en fait on tombe devant plusieurs fosses, des fosses avec plusieurs individus. Et ce qui est étrange d'abord c'est l'organisation, c'est la gestion de ces corps. Les individus inhumés individuellement étaient rares, les fosses multiples, simultanées, étaient beaucoup plus nombreuses. Parfois, certaines fosses allaient jusqu'à 14 individus mis à l'intérieur, ils étaient désorientés, ils étaient mis tête bêche, parfois à l'envers, les uns sur les autres, parfois même de façon imbriquée dans ces fosses, avec une fosse centrale en particulier qui a eu plusieurs phases d'utilisation, avec des premiers dépôts simultanés, ensuite des os en position secondaire qui ont été remobilisés, des morceaux de corps qui étaient en position anatomique, d'autres qui ne l'étaient pas. Bref, il y avait des choses qui étaient étranges, qui pouvaient correspondre parfois à des sépultures dites de catastrophe, quand il y a une crise de surmortalité. C'était l'une des hypothèses d'ailleurs, mais il y en avait d'autres. Et l'autre élément qui est apparu cette fois-ci lors de la post-fouille, c'est l'étude biologique de la population. Et notamment, il y avait, au-delà d'un état sanitaire qui était assez bon, globalement, il y avait quelques traumatismes sur ces individus. Et en particulier, on a noté deux lésions traumatiques sur un crâne, dont la coupe nette d'une vertèbre.
Et ce qui signifie
cette vertèbre, ce qui signifie que cet individu a été décapité. Donc toutes ces observations ont été réalisées donc par l'équipe d'anthropologues et en particulier par ma collègue Anne-Gaëlle Corbara. Et à partir de ces indices, on a de plus en plus réfléchi, on a réfléchi avec nos collègues, on a réfléchi avec le service de l'État. Il n'y avait pas d'éléments décisifs pour identifier cet édifice, mais il y avait quand même un faisceau d'indices qui nous engageait à aller plus loin.
Nicolas Mainvielle-Larousse, vous évoquiez tout à l'heure le fait que dès le diagnostic, finalement, on date ces vestiges au XVIe siècle. Quelles informations on avait sur cet emplacement-là de l'esplanade au XVIe siècle? À quoi ça ressemblait? Est-ce que c'était un endroit qui était habité ou bien pas du tout? Qu'est-ce qu'on y faisait à cet endroit-là de façon un peu générale? Qu'est-ce qu'on en savait?
Alors, on n'en savait à peu près rien. On en savait qu'il s'agissait d'une berge de l'Isère qui était en dehors de la ville. Donc, une berge de l'Isère qui, en plus, était inondable. L'Isère est une rivière qui sort régulièrement de son lit. Donc, c'était plutôt un endroit inoccupé, en tout cas, que l'on pensait complètement inoccupé, qui était essentiellement, en fait, utilisé à exploiter le bois qui était là, à exploiter le sable également. Mais aucun autre indice particulier. On savait dans les alentours qu'il y avait plusieurs édifices religieux, plusieurs chapelles, mais plutôt proches de Grenoble. Et c'était justement l'un de ces édifices religieux qui n'était pas bien localisé à ce moment-là, qui a été la première hypothèse. Première hypothèse qui avait été identifiée par un collègue des archives départementales de l'Isère avec qui on a travaillé.
Donc là, vous pensiez à une chapelle éventuellement. Quelles sont les hypothèses qui ont été émises? Vous disiez que assez rapidement, on a écarté aussi la sépulture de catastrophe qui survient après notamment une grosse épidémie. Quelles ont été les suggestions posées sur la table en disant « on ne sait pas, on va mettre tout ça au pot et puis on va réfléchir ensemble ».
Alors, donc effectivement, la première hypothèse, c'était cet édifice religieux. C'était un ermitage dédié à Saint Jérôme qui a été supposé. Et dès que l'on a repris les recherches, on s'est rendu compte que l'ermitage à Saint Jérôme était localisé plus au sud, à l'intérieur de Grenoble. Donc l'hypothèse a été exclue. Et toutes les autres ont été évaluées les unes après les autres. Donc il y avait toujours un édifice religieux qui pouvait être utilisé. Il y avait l'hypothèse d'une maladrerie, d'un endroit où on va cantonner et ensuite inhumer les malades contagieux. Au XVIe siècle, il y a un certain nombre de vagues épidémiques dont ça aurait pu être possible. Il y avait l'hypothèse du gibet, que l'on avait également à ce moment-là, et puis des événements militaires, des inhumations liées à ce genre d'événements, mais un peu plus flous. Et donc, à mesure de l'évaluation de ces hypothèses, on a exclu d'abord, et puis ensuite on a fini par inclure avec l'examen des inventaires, puis des sources judiciaires.
Alors, les sources judiciaires, de quoi on parle? Là, ce qui est très beau dans cette découverte, c'est que l'enquête archéologique se prolonge dans les archives. Vers quel type d'archives vous allez vous tourner en premier lieu pour essayer d'obtenir des réponses à vos questions?
Alors, on va du plus probable au moins probable. Un édifice judiciaire, ici on est à Grenoble, on est un lieu où le pouvoir public du dauphin est le principal. Donc s'il y a une justice, le plus probable, c'est la justice delphinale publique. Donc on va regarder les séries des archives publiques, donc la série du Parlement de Grenoble, qui était en charge de cette justice. Et dans les inventaires figurait la mention d'un gibet dit du port de la Roche. Mais à ce moment-là, le port de la Roche, c'est un toponyme qui est bien connu à Grenoble, qui est plus au sud, qui n'est pas nécessairement associé à l'endroit où on a fouillé. Et cette association a été faite, d'une part parce que quand on regarde les autres documents qui concernent plus spécifiquement le lieu où on fouille, on s'est rendu compte que le port de la Roche était aussi associé à ce lieu. Donc il y a eu une correspondance géographique, on avait la correspondance chronologique parce qu'on savait que ça datait du XVIe siècle, et il manquait une confirmation. Cette confirmation, on l'a eue lorsque l'on a identifié un compte de construction avec un plan, et ce plan correspondait parfaitement aux vestiges fouillés.
Qu'est-ce que c'est qu'un compte de construction au XVIe siècle, Nicolas Mainvielle-Larousse?
Alors c'est un compte qui est conservé dans les archives publiques, donc c'est l'ensemble des pièces que l'administration conserve pour documenter cette construction, qui est assez proche d'ailleurs des archives que l'on peut produire aujourd'hui, avec des devis, avec des appels d'offres, avec des comptes rendus de travaux et des PV.
À quoi ressemble cet appel d'offres? Alors là, on n'est pas sur un appel d'offres d'un rond-point, quoi. On est sur un gibet. À quoi correspond cette confirmation qu'il s'agit bien de cet édifice quadrangulaire, qu'il s'agit bien d'un gibet? Quel est le document que vous avez en main qui vous fait vous dire, là, c'est bon, on a notre réponse?
Alors d'abord, avant même de lire en détail le compte, il y avait un plan d'une charpente qui était associée aux différentes pièces. Et donc ce plan de la charpente avait une forme et des dimensions qui correspondaient exactement à ces vestiges. Donc c'est ce qui a fait immédiatement attirer l'œil. Et puis ensuite, notre collègue Éric Cissot a fait l'édition complète des comptes, donc ce qui nous a permis d'avoir toutes les dimensions, d'avoir l'ensemble des détails et surtout d'avoir les étapes du chantier. Parce que ce gibet n'a pas été construit en une seule fois, il a été construit de 1544 à 1547. Il y a eu plusieurs projets et la réalisation n'est pas exactement le projet initial.
Il y a eu des petits aménagements. Alors puisqu'on parle d'un gibet, on n'est pas tous et toutes familiers de ce que c'est que cet édifice judiciaire. On peut avoir lu Les Rois Maudits de Maurice Druon et on a une vague idée de ce que c'est avec le gibet célèbre de Montfaucon, mais qui lui se situe à Paris. Qu'est-ce que c'est qu'un gibet au XVIe siècle? À quoi ça sert?
Alors, un gibet, c'est un édifice judiciaire, donc qui s'insère dans un système judiciaire, qui sert à l'exhibition des condamnés à mort par leur pendaison à des poutres, donc fixées sur des piliers. Donc, ces condamnés à mort, généralement, sont exécutés sur des places publiques, parce que l'exécution doit être publique, et ensuite, ils sont amenés, donc sur des charrettes, vers le gibet pour qu'ils y soient exposés de façon à signifier leur condamnation et à le signifier de façon plus ou moins longue en fonction de la circonstance. Ça peut aller de plusieurs jours, ça peut aller même à plusieurs années. Et c'est donc un édifice qui doit être visible et qui doit être potentiellement monumental si la justice qui l'utilise se revendique comme étant une justice importante. Et ici, c'est le cas, parce qu'on a un gibet qui compte 8 piliers, donc le nombre de piliers représentatifs de cette hiérarchie judiciaire. Le roi, le gibet royal de Montfaucon le plus connu à Paris, en avait 16 notamment. Donc ici, on est sur une justice de principauté, mais ça reste une justice royale, donc il y a 8 piliers. Et c'est un édifice qui devait se voir par les habitants, bien sûr, mais aussi par tous ceux qui passaient. Ils étaient généralement installés en limite de juridiction quand on rentrait dans une juridiction, donc il fallait que l'on sache à qui on avait affaire. Et c'est un édifice qui devait se voir donc par les passants, donc des chemins, qui devait se voir également par les bateliers si on était à proximité d'une rivière, ce qui est le cas. Et si bien que on comprend l'ampleur de ce gibet, hein, il mesure environ 8 à 9 mètres de côté, il faisait environ 9 mètres de haut. Il était parfaitement visible dans le paysage.
Est-ce que c'était si fréquent d'avoir des gibets de cette envergure-là ailleurs qu'à Paris ou dans les grandes agglomérations de France?
Alors, c'était fréquent en effet. À chaque fois qu'il y avait une justice qui dépendait du roi, il pouvait y avoir ce genre de gibet monumental. Après, chaque justice criminelle, la justice est fragmentée sous l'Ancien Régime, au Moyen-Âge, donc chaque justice criminelle pouvait avoir son gibet, et donc il y a des architectures très différentes en fonction de cette hiérarchie. Il peut y avoir simplement deux poteaux avec une poutre qui les réunit. Voilà, ça dépend de la justice.
Ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette découverte, c'est comment il y a des allers-retours finalement qui s'opèrent entre ce site de fouille, puis les archives, et comment ce plan, finalement, d'une charpente du gibet va vous amener à obtenir des réponses à d'autres questions que vous vous posiez, notamment sur ces squelettes. Là, on a plein d'éléments de réponse qui naissent avec juste la découverte de ce document papier.
Oui, à la fin, on a fini par comprendre toutes les questions, enfin une grande partie des questions que l'on se posait lorsque l'on fouillait. On a compris pourquoi ces inhumations étaient mises ainsi. On a compris qu'il s'agissait de condamnés qui étaient dépendus, qui étaient mêlés immédiatement, qui étaient mis immédiatement en terre. On a compris pourquoi il y avait des morceaux de corps et pas uniquement des corps entiers. On a compris pourquoi il y avait des perturbations, pourquoi il y avait des pelletés, pourquoi il y avait des translations de dépôts de corps. Et on a compris surtout une chose qui est importante dans la démarche archéologique, on a compris qu'il ne s'agissait pas de sépultures. Ce que vous avez remarqué, depuis le début, je ne parle pas de sépultures, je parle de dépôts, je parle d'inhumation. Pour être qualifié de sépulture, il faudrait que les dépôts aient été réalisés dans une intentionnalité positive, que le défunt ait été honoré. Or ici, rien de tel, et tout au contraire. On n'est pas dans un cimetière, ce n'est pas une terre consacrée. Toutes ces inhumations trahissent une mise en terre très brutale, avec des perspectives de perturbation pour chaque individu ensuite dans le futur. Donc il y a là des inhumations qui ont eu vocation à être infamantes, de façon à prolonger dans la mort la peine qui avait été prononcée lors du vivant.
Ce qu'on appelle la malmort, finalement.
Ce qu'on appelle la malmort, en effet. Et c'est un exemple de malmort, ce qu'une société considérait comme une malmort au XVIe siècle.
On n'a pas parlé aussi du fait que, parmi ces squelettes, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes, si j'ai bien compris, qui étaient représentés ?
Oui, il y a une surreprésentation, alors légère des hommes par rapport aux femmes, légère tout simplement parce que comme on n'a pas pu tout fouiller, on n'a pas l'ensemble du corpus, donc peut-être qu'avec une autre partie, le corpus aurait été un peu plus équilibré, mais en tout cas, effectivement, il y a plus d'hommes, des hommes relativement jeunes, jeunes immatures, un seul adolescent, mais quand même deux femmes dans ce corpus. Et donc, ça faisait partie des choses qui étaient un peu étranges pour un cimetière classique où il y a généralement une population naturelle avec des enfants, des hommes, des femmes et des hommes plus âgés.
Pourquoi c'est Est-ce qu'on a une idée des raisons pour lesquelles on pouvait être amené non seulement à être condamné à mort, mais en plus à être exhibé au gibet après sa condamnation à mort? Est-ce que, parce qu'on a une vision un peu déformée par tous ces films américains qui nous présentent ces époques comme des époques où la condamnation à mort était assez facilement prononcée. C'est pas le cas, en fait. C'était quand même, il fallait faire quelque chose de très très grave.
Oui, c'est une condamnation extrêmement grave. La peine de mort au Moyen-Âge sous l'Ancien Régime est plutôt exceptionnelle dans l'ensemble du système pénal, mais elle n'empêche, elle intervient, elle restait ordinaire dans le paysage. Mmh. Et il faut soit avoir fait des crimes de sang, soit avoir défié l'autorité en particulier là l'autorité royale. Et les quelques noms que l'on a grâce aux études sur la justice qui ont déjà été réalisées, en fait ça montre justement quels étaient ces condamnés. Le premier, celui qui a inauguré, ça c'est un beau dossier aussi qu'a trouvé notre collègue des archives, c'est Michel Prévost, c'était un procureur du roi à Vienne qui a été accusé de malversation financière et donc au terme de son parcours judiciaire,
à
il a été exhibé.
On pouvait être condamné à mort pour malversation financière.
On pouvait, effectivement, il a fait tout un tas d'autres choses aussi, oui. On est en train de travailler sur ce dossier, ce sera un cas intéressant, et c'est lui-même qui l'a inauguré, ce gibet. Mais ensuite, les noms que l'on possède pour l'instant, ce sont ensuite essentiellement des protestants, dans les années 1575, qui ont été accusés d'avoir participé aux affaires de guerre, notamment à quelques affaires de siège de Grenoble, donc quelques protestants qui ont été condamnés pour cela, et en particulier l'un des chefs protestants qu'il y avait en Dauphiné, Charles Dupuy-Montbrun, qui était condamné, exécuté et exhibé en 1575.
Alors là, vous parlez déjà de ces conflits qui sont en germe au moment où on construit ce gibet. Est-ce que ce gibet, justement, témoigne d'un raidissement, comme je l'évoquais en début d'émission, du pouvoir royal à l'égard des Huguenots, à l'égard de ceux que l'autorité royale qualifie d'hérétiques?
Alors c'est une question que l'on a. C'est une question que l'on a parce que donc ce gibet a été construit en 1544 et on est assez peu de temps en fait après donc cette affaire des placards où on a allé afficher jusque dans la chambre du roi des pamphlets contre la messe. Donc à ce moment-là, et de plus en plus, la lutte contre la réforme devient une affaire d'État. Et le pouvoir royal se raidit et envoie des instructions aussi à ses parlements pour qu'ils se saisissent de ces affaires-là. Donc après, la pratique dans les différentes juridictions varie et il n'est pas particulièrement évident pour l'instant que la conséquence soit directe. Mais en tout cas, c'est une hypothèse, on y travaille, parce que on avait besoin peut-être de réaffirmer l'autorité du roi et de réaffirmer aussi les conséquences de défier l'autorité du roi.
Vous évoquiez donc dans les registres judiciaires la présence de condamnations prononcées en 1575 à l'égard de protestants. Est-ce qu'on sait si ces condamnés à mort sont effectivement ici présents ou bien ce sera difficile quand même de mettre des noms sur ces condamnés-là qui gisent sous le gibet?
Ce sera très difficile en effet pour deux raisons. La première, c'est que par principe, il n'est pas certain que ceux qui ont été exhibés au gibet soient inhumés au pied du gibet. Ils peuvent avoir ensuite été inhumés dans un cimetière, ils peuvent avoir été inhumés ailleurs, et même s'ils ont été inhumés dans un premier temps, ils peuvent avoir été désinhumés pour être inhumés ailleurs. Ça dépend des relations de la famille, d'une éventuelle réhabilitation. Mmh. Donc ça, par principe, c'est possible. Et quand on a les noms dans les actes, on a les noms quand ils sont exhibés, mais on n'a pas ensuite la pièce pour dire qu'ils ont été inhumés ici. Donc première raison. Et deuxième raison, comme on n'a pas la totalité du corpus, il est toujours possible que des individus soient à côté. Et donc, quand on fait des correspondances pour savoir qui est qui, en fonction des pathologies, notamment sur les squelettes, voilà, ce sera difficile d'avoir une certitude de ce point de vue.
Ce gibet, donc, vous l'évoquiez tout à l'heure, Nicolas Mainviel-Larousse, a été construit entre 1544 et 1547. Vous parliez de 1575 des condamnations à l'exhibition au gibet. Combien de temps il a été en fonction, si je puis dire ?
Alors, c'est une autre question que l'on a. On a le début, on n'a pas encore la fin. La dernière mention que l'on a du gibet dans la documentation écrite, c'est 1577. Les datations radiocarbone nous donnent une plage un peu plus large, mais c'est normal parce que la précision est moins, donc on peut aller jusqu'au milieu du XVIIe siècle, dirons-nous. Mais pour l'instant, l'hypothèse, celle qu'on va essayer de travailler, c'est qu'il aurait été abandonné, on va dire, au tournant du XVIIe siècle. Parce que là aussi, le contexte peut être pertinent. On est dans une phase de pacification, au contraire. On est au moment où Henri de Navarre devient roi de France, Henri IV. On est au moment où l'édit de Nantes va être préparé, va être écrit. Et on est aussi dans un moment en Dauphiné où le lieutenant général du roi à Grenoble, en Dauphiné, c'est Lesdiguières, un ancien chef protestant, celui qui a pris la suite de Montbrun, justement. Et donc sa politique va être la pacification, et sa politique aussi à Grenoble va être à l'agrandissement, à l'embellissement de la ville. Donc il est possible qu'à ce moment-là, ce gibet en particulier soit passé de mode, mais c'est à confirmer.
Que ce soit un peu comme une tâche finalement qu'on veut oublier, et une époque finalement violente qu'on veut un peu mettre sous le tapis.
C'est possible, oui. Voilà, ce sera à creuser.
Ce qui est particulièrement aussi intéressant dans cette découverte du gibet à Grenoble, Nicolas Mainvielle-Larousse, c'est que ça participe, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'une archéologie qui est assez récente, qui est l'archéologie de la justice. Pourquoi cette archéologie-là est-elle aussi pertinente et importante à étudier pour comprendre ce que l'autorité fait matériellement au corps? Là, on fait du Foucault un peu à la petite semaine, mais voilà, comment caractériser cette archéologie-là?
Eh bien, c'est très intéressant parce que, en fait, on comprend mieux les normes, le centre, à partir de l'étude des marges et des cas qui sont justement en dehors. Parce que c'est en voyant comment une société a voulu se débarrasser, a voulu signifier qu'il y a eu une infamie, que l'on comprend ce qu'est le bon chemin. Donc c'est en fouillant les marges, c'est en fouillant ce genre d'édifice que l'on voit comment une société perçoit ses morts, et donc quelque part comment elle perçoit ses vivants.
Est-ce que d'autres types de gibets sont à mettre en regard de celui qui a été découvert à Grenoble? Est-ce qu'il y a d'autres exemples, comme ça, d'une archéologie de la justice qui s'exprime de façon matérielle en France, qui peuvent être... comment on peut faire ce réseau-là?
Alors, on a encore assez peu de cas immédiatement comparables, parce que c'est un champ de la recherche qui se développe en ce moment. Il y a des chercheurs qui ont pris ce champ-là à bras-le-corps. Je pense à Mathieu Vivas à l'Université de Lille, notamment.
Qui était venu au micro de Vincent Charpentier.
Exactement.
En 2014.
Et donc, les recherches se développent. Elles avaient été déjà un peu plus avancées en Europe centrale, en Allemagne, dans les années 90-2000. Mais voilà, ça prend son essor en France et c'est une très bonne chose. Donc, on aura sans doute l'occasion de faire des comparaisons directes, mais pour l'instant, ça va être l'un des premiers cas, à la fois en termes d'architecture, en termes également de corpus ostéologique, que l'on mettra à disposition de l'ensemble de ses collègues pour faire avancer cette recherche.
Alors, on parle souvent, à ce micro, des travaux de fouilles, mais aussi des travaux de post-fouilles. Est-ce que ces travaux de post-fouilles concernant cette découverte à Grenoble sont achevés? Quelles sont les choses encore à régler, les questions encore auxquelles il faudra répondre pour vraiment circonscrire nos connaissances sur ce gibet de Grenoble?
Alors, il y a plusieurs étapes. Donc, il y a l'état du rapport d'opération. Donc, on est en train de l'achever. Donc, la post-fouille est presque terminée. On est en train de travailler en ce moment sur la restitution graphique du gibet, parce qu'on va pouvoir faire une restitution quasi complète et en détail. Donc, on travaille à cela. Ça nous permet aussi de réfléchir sur toutes les questions architecturales auxquelles on n'aurait pas pensé.
Comme vous parlez de restitution graphique, c'est de faire une modélisation, par exemple, du gibet en 3D?
Voilà, alors en 3D pas forcément, en tout cas pas dans un premier temps, la 2D la suffit pour avoir une idée précise. Donc on est en train de travailler là-dessus. Après, il y a en fait un ensemble de dossiers qui pourront être ouverts, mais dans le futur. Par exemple, dépouiller les archives judiciaires du Dauphiné pour identifier, continuer à identifier ceux qui ont été exhibés, et puis quelque part faire une étude un peu plus large sur l'exercice, les pratiques judiciaires en Dauphiné à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Mais tout ça, ce sont des dossiers qui pourront se faire après l'opération. Et sans doute qu'ils se feront par d'autres aussi, parce qu'en archéologie préventive, on n'est pas à chaque fois spécialiste de chaque opération que l'on dirige, mais notre travail, c'est de faire en sorte de mettre à disposition de la communauté scientifique des cas d'études et d'ouvrir les pistes de recherche qu'ils suivront ensuite.
J'aime aussi toujours savoir ce que deviennent les endroits où se sont passées ce genre de choses après qu'on arrête de s'en servir de la façon dont on s'en est servi. Phrase très alambiquée pour dire, mais qu'est devenu ce quartier-là, cette zone-là, après la fin de l'utilisation du gibet?
Eh bien, ce secteur a été progressivement occupé de façon de plus en plus pérenne par la communauté de Grenoble, de Saint-Martin, Le Vignoux, qui était à ce moment-là ici également. Le problème qu'ils ont eu, c'était de gagner de terrain par rapport à l'Isère qui débordait, qui redébordait sans cesse. Et donc, en fouillant ça, on a mis en évidence ces tentatives répétées de la ville pour lutter contre la rivière et finalement stabiliser un espace dans lequel ils vont se servir ensuite pour tout un tas d'activités, des lieux de promenade d'abord. Il y a un jeu de miles, c'est un ancêtre du cricket qui s'installe à proximité dans les années 1650. C'est ensuite un espace qui va servir à tout un tas d'activités publiques, des rassemblements, des exercices de troupes, des jeux de boules encore une fois, des lieux aussi de cantonnement, de fêtes foraines plus récemment au XXe siècle et jusqu'encore à aujourd'hui. Et donc c'est un espace marginal en dehors d'une ville, mais qui a vécu avec l'extension de cette ville et quelque part la manière dont les hommes ont eu toujours à gagner du terrain par rapport à la nature.
Est-ce que la totalité de l'emprise a pu être fouillée ? Est-ce que sinon c'est quelque chose qui est envisagé dans les années à venir ?
Alors la totalité de l'emprise qui était donnée à la fouille a été fouillée. Donc ça c'est terminé et on ne pourra pas y revenir de toute manière. Et en fait, on a fouillé tout ce qui était possible de fouiller, parce qu'à côté, il y avait d'autres aménagements par ailleurs qui ont été faits antérieurement, et si bien que on n'a pas l'ensemble, mais c'est aussi le quotidien de ce type de fouille.
Les rails de tramway passent au-dessus d'une partie de ce site, et on ne pourra pas faire sauter les rails,
mais à moins d'être des Indiens. On aura quand même les dimensions et la restitution d'ensemble.
Quel bilan peut tirer de cette enquête-là qui a conduit à cette découverte qui avait été annoncée comme une découverte macabre, ce qu'elle est, mais voilà, comment on peut définir ce travail de fouille et quel bilan vous, en tant que chercheur, vous tirez de ces travaux qui ont été faits dans un temps assez ramassé.
Oui, déjà la première bonne chose, c'est que on peut faire des diagnostics sur des endroits qui sont complètement inexplorés encore. On n'avait aucun élément pour dire qu'il y avait des vestiges ici, donc c'est bien que l'on puisse aller explorer les endroits complètement inconnus. Ensuite, c'est bien que l'on ait pu aussi vite et aussi bien articuler toutes ces sources et travailler en bonne intelligence avec plusieurs administrations, plusieurs institutions. Et surtout, on va pouvoir proposer des réflexions. En ce moment, il y a aussi des réflexions qui se déroulent sur ce qu'est une sépulture. Et avec ce cas-là, on va pouvoir donner quelques marqueurs archéologiques. Ici, on a un cas qui est bien documenté maintenant, qui est connu. Voilà comment, au XVIe siècle, une société marquait la Malemort. Et donc, ça pourra servir de comparaison à des études dans le futur, qui seront peut-être un peu moins claires, un peu moins évidentes. Ils auront un point de repère, qui ne sera pas suffisant, bien sûr, mais un point de repère, c'est déjà ça.
Parce que c'est une très belle découverte qui apporte de l'eau au moulin à cette archéologie naissante, entre guillemets, de la justice. Et merci beaucoup, en tout cas à vous, Nicolas Mainvielle-Larousse, d'être venu nous parler de cette découverte qui nous éclaire aussi sur cette période trouble des moments qui précèdent les guerres de la religion.
Merci.
Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansigny, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Élise Le, aujourd'hui à la technique. Et merci à nos partenaires, l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.